de l'école Maurice Thérèse A. Voici mes camarades. Agatha.
Bonjour.
Anthony.
Bonjour.
Kenza.
Bonjour.
Salomé.
Bonjour.
Et moi, Valentin, bonjour.
Nous voudrions, pour l'anniversaire de Radio Cartable, vous interroger.
Qui êtes-vous ?
Je suis Madame Lotroïc. Il y a 15 ans, au moment de la naissance de Radio Cartable, j'étais l'inspectrice de l'éducation nationale à Ivry.
Pourquoi avez-vous aidé Radio Cartable ?
Eh bien, pour arriver à ce qu'une radio voit le jour, qu'elle naisse, il fallait que plusieurs personnes fassent des travaux divers. Vous en verrez certainement d'autres qui vous raconteront ce qu'elles ont fait. Moi, mon travail, c'était un travail d'inspectrice de l'éducation nationale, c'est-à-dire que je devais obtenir l'autorisation en la demandant à tous les chefs qu'il y avait entre nous ici et le ministre, qui est le ministre de l'éducation nationale, qui est le grand chef de toute l'école. Il fallait que l'inspecteur d'académie, que le recteur, que le ministre lui-même donne son autorisation. Donc moi j'ai écrit en expliquant pourquoi il me semblait tout à fait important que les enfants des écoles d'Ivry puissent disposer d'une radio. Et puis nous avons également dû aller voir un autre organisme qui s'était créé à ce moment-là au niveau du gouvernement de la France, qui s'appelait, si je me rappelle bien, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce que devant toutes ces radios qui naissaient partout, dans les usines, dans les quartiers, dans un groupe d'amis qui avaient envie de parler de quelque chose sur la radio, il fallait bien que quelqu'un dise, bon, voilà comment on va répartir les longueurs d'onde. Vous qui faites de la radio, vous savez bien que c'est par les ondes que voyagent les émissions de radio. Donc nous sommes allés voir un responsable du comité de l'audiovisuel, du conseil supérieur de l'audiovisuel, voilà, je ne retrouvais plus le nom, qui s'appelait Monsieur Carlin, qui est un grand cinéaste et qui nous a donné son autorisation.
Pourquoi avez-vous accepté que Radio Cartable il existe ?
Parce que ça me semblait tout à fait passionnant et très intéressant. Et là, je parle aussi de mon métier, à moi, qui était de réfléchir à la façon dont les enfants pouvaient le mieux faire tous les apprentissages qu'ils ont à faire quand ils sont à l'école. Vous savez bien que vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'un de ces apprentissages les plus importants, c'est celui de la langue française. Comment arriver à maîtriser, comme disent les grandes personnes, à savoir tout à fait bien utiliser la langue française. Il me semblait qu'une radio, c'était quelque chose de tout à fait important. D'abord parce que souvent, on prépare par écrit ce qu'on a envie de dire, et qu'au moment où on prépare par écrit, vous savez bien tout ce à quoi il faut penser pour que ce qu'on écrit soit comme il faut, pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire, pour que les mots soient les meilleurs, les mieux choisis, et puis aussi parce qu'après, on apprenait à parler. Et vous savez bien aussi que ça n'est pas du tout la même chose de répondre à la question que la maîtresse ou que le maître vous pose, et puis de se mettre devant un micro et d'apprendre à ne pas bafouiller, d'apprendre à ne pas être timide. C'est difficile tout ça. Et ça me semblait des choses tout à fait importantes à donner à des enfants.
Quelle a été votre responsabilité pour faire vivre Radio Cartable ?
Il y avait dans l'équipe de grandes personnes qui étaient des instituteurs ou des directeurs ou des conseillers pédagogiques, ou des enseignants à la retraite. Il y a beaucoup de gens qui ont tous fait un certain travail. Et par exemple, je crois que vous allez interroger un certain monsieur qui s'appelle Monsieur Laborie, qui a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de classes à fabriquer leur émission, il a appris aux enfants et parfois aussi aux maîtres comment on pouvait fabriquer une émission. Et moi, ce n'était pas mon travail. Mon travail, c'était les rapports avec ce que vous entendez parfois les grandes personnes appeler l'administration. Ça veut dire être sûr que monsieur l'inspecteur d'académie allait continuer d'être d'accord d'une année sur l'autre avec Radio Cartable. Et ça, quand je dis monsieur l'inspecteur d'académie, ça veut dire tous les chefs qui étaient au-dessus de lui aussi, c'était de rencontrer Monsieur le maire, ou Monsieur le maire adjoint à l'éducation nationale, qui s'appelait Monsieur Minck, pour essayer que la municipalité d'Ivry participe aux finances, parce que ça coûte cher tout ça. Ce studio, vous imaginez bien qu'au moment où on l'a construit, on a acheté tous les appareils qui étaient nécessaires, ça a coûté beaucoup d'argent. Il fallait donc essayer que les personnes qui pouvaient nous donner de l'argent nous donnent de l'argent. Et la municipalité d'Ivry a installé ce studio. Alors quelque chose qui dure, eh bien, ça n'est pas parce que les gens restent sur place et continuent de le faire, c'est parce que c'est assez intéressant pour que tous les gens qui arrivent, enfin pas tous, mais que chaque année des gens arrivent et se disent « Oh mais, moi je vais participer à cette activité-là, parce que je pense que ça va être très bien pour mes élèves. » C'est de cette façon, c'est en faisant des choses intéressantes qu'on les fait durer.
Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir.
Au revoir.
Au revoir à tous. Moi, je suis très contente de retrouver des enfants qui parlent devant des micros comme il y a 15 ans et qui ne sont pas vraiment différents, au moins dans leur aspect. Hein. Vous êtes forcément différents des enfants d'il y a 15 ans. Vous avez 15 ans de moins qu'eux. Mais vous êtes comme eux, vous leur ressemblez. Vous savez déjà bien vous exprimer devant un micro et je pense que vous le faites peut-être mieux que la première fois que vous l'avez fait.
Oui.
Oui. Oui. Merci.
Au revoir à vous
Merci.
Tous.
Au revoir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère vous retrouver le 7 décembre pour de nouveaux inédits.
Et d'ici là, vous pouvez retrouver les émissions sur le site Radio Cartable, radio-cartable.ouvaton.org.
Au revoir.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand avec l'accompagnement technique de Xavier Lecomte que je remercie très chaleureusement. Cette émission est consacrée à Maïlys Bessery et à son troisième livre La nourrice de Francis Bacon, un roman qui est paru aux éditions Gallimard et qui a remporté le 14 novembre dernier le prix des écrivains du Sud. Mais je vous laisse de ce pas en présence de l'auteur qui, avec sa propre palette de mots, va tout vous dire sur l'enfance de Francis Bacon, un artiste haut en couleur dont la vie est aussi un roman. Maïlys Bessery, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier La nourrice de Francis Bacon, un roman, le troisième roman, je crois, aux éditions Gallimard. Ma première question, j'ai eu l'impression que c'était comme une sorte de trilogie que vous faites, une trilogie irlandaise, puisque moi, j'avais lu le tiers-temps qui était consacré à Samuel Beckett, et je sais que vous avez écrit sur Yeats. Donc, est-ce que c'est volontaire de faire comme ça un triptyque romanesque autour de l'Irlande ?
Oui, l'idée, c'était d'utiliser un peu cette connaissance et cet amour que j'ai pour l'Irlande et pour la littérature irlandaise, et d'utiliser ces grandes figures, alors deux figures d'écrivains, le dramaturge Samuel Beckett, qui évidemment faisait facilement le pont entre la France et l'Irlande et permettait de raconter les deux, en lui rendant, c'était peut-être la particularité de ce projet, son irlandité, hein, du fond de sa maison de retraite parisienne, dans ses derniers jours, le ramener à la fois à sa vie en France, mais aussi à ses racines irlandaises et à toute cette culture littéraire dont il est le fruit aussi. Le deuxième roman était consacré à W.B. Yeats, donc Yeats qui est prix Nobel lui aussi littérature comme Beckett, le grand poète irlandais, on a dit plus grand poète de langue anglaise pendant un certain temps, hein. C'est un grand homme de lettres, mais aussi avec ce volet politique qui permettait de raconter l'histoire de l'indépendance de l'Irlande. Et Yeats faisait aussi un lien, ce qui était très important pour moi, en tout cas dans mon projet d'écriture, entre la France et l'Irlande, puisqu'il a eu le bon goût de mourir en France à Roquebrune-Cap-Martin et d'être enterré dans ce magnifique cimetière qui touche la Méditerranée, qui est aussi le cimetière du Corbusier. Et de là, son corps a, d'une certaine manière, disparu. Et ça a été le fruit de cette deuxième intrigue. Alors l'idée de ce troisième projet, c'est effectivement le troisième volet, triptyque. C'est vrai que le terme de triptyque correspond peut-être un peu mieux à celui de mon projet que celui de trilogie, parce que pour moi, c'est pas trois livres liés les uns aux autres directement, comme une sorte de suite les uns aux autres, mais c'est trois livres imprégnés d'Irlande, de la couleur du pays, de sa couleur politique aussi, de ce qu'elle a pu traverser d'un point de vue religieux et politique. Et en même temps, ce sont trois histoires individuelles, trois histoires d'artistes. Ce qui m'intéressait avec Francis Bacon, c'était évidemment qu'est-ce qu'on fait en termes d'écriture quand on travaille avec de la peinture, hein, comment est-ce que je pourrais écrire dans une forme qui pourrait malgré tout rendre hommage à la peinture, hein, dans un même bain que celui de la peinture. Mais c'était aussi l'idée de raconter l'histoire de l'ennemi d'une certaine façon, puisqu'il est anglais d'Irlande, anglo-irlandais, qu'il appartient à cette minorité justement au début du XXe siècle, qui est une minorité à la fois de gens qui ont colonisé l'Irlande et qui aussi font face à des violences certaines, puisqu'il y en a des deux côtés dans cette période-là. Donc c'est l'histoire d'un peintre de la violence qui lui-même a traversé la violence dans sa vie personnelle et aussi parce qu'il était en Irlande dans cette période de troubles.
C'est un Anglais dans l'Irlande. Vous êtes peut-être une Française aussi dans l'Irlande. Est-ce que c'est important d'écrire loin de soi, loin de sa langue d'origine pour mieux la retrouver? Parce qu'on sent qu'il y a un travail sur l'écriture. Il y a deux types d'écriture, on va en parler, Maëlys Bessery. Mais on sent qu'il y a un travail de scansion, il y a un travail de rythme. Est-ce que c'est aussi ça, se réapproprier son écriture aussi? Ça a été un travail pour vous?
C'est vrai que le fait d'écrire en français oblige à une certaine réflexion, parce que le français classique, littéraire, etc., d'une certaine manière, c'est un peu décalé de la langue actuelle. Et donc, il est compliqué, voire inenvisageable, d'écrire dans un français du 19e siècle. Mmh. Il est pour moi difficilement concevable d'écrire dans la langue telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, en tout cas trop oralisée. Donc, il faut trouver une sorte de compromis ou de pas de côté. Et donc, écrire loin de ma langue, d'une certaine manière, c'est faire un petit tour par l'Irlande, c'est réfléchir à ce qu'on ferait en anglais, avoir des formules qui viennent en anglais, des expressions qui viennent de l'anglais, en plus de l'anglais d'Irlande, qui est un anglais coloré, bien particulier, extrêmement littéraire, puisque c'est une grande langue d'écrivain. Il y a cinq prix Nobel en Irlande, ce qui est énorme. Et donc, pour moi, cette réflexion autour de la langue, elle me permet justement de parfois traduire à la fois des expressions et des émotions qui viennent de la langue anglaise, qui me permettent de recoloniser un peu le français. Alors évidemment, tout se passe en français, mais dans un français qui a traversé cette autre langue qu'est l'anglais. Le voyage aussi est pour moi une source d'inspiration. Je pense que je suis plus intéressée par les sujets universels que par les sujets... ils peuvent être très universels tout en étant tout à fait régionaux, mais pour moi, c'est plus simple de trouver des résonances probablement à l'étranger, et en même temps sur une terre qui, pour moi, est très émotionnelle aussi, puisque j'ai eu beaucoup d'émotions en tant que lectrice de l'anglais irlandais, mais aussi parce que c'est une terre que je connais bien et que je visite depuis ma préadolescence, et j'ai évidemment beaucoup de liens d'amitié quasi familiaux là-bas, et donc l'Irlande pour moi représente aussi une partie maintenant importante de mon histoire aussi.
On sent que c'est une écriture par stratification, c'est-à-dire que vous... Je parlais de rythme tout à l'heure, il y a cette façon de donner, il y a deux voix hein, dans votre livre, dans votre roman Maëlys Bessery. Il y a la voix de Nanny, donc Jessie Lightfoot, je crois, qui est la nourrice de Francis Bacon, et il y a la voix, le monologue, le soliloque intérieur de Francis Bacon, qui se parle à lui-même en train de peindre. Donc il y a la voix d'une femme, une voix maternelle, et la voix d'un homme, d'un artiste, d'un peintre, de l'action. Donc il y a à la fois la voix des origines et puis la voix du devenir.
C'est vrai que j'ai choisi d'écrire ce roman à deux voix pour deux raisons. J'avais pas envie de ressusciter la voix de Bacon, parce que la voix de Bacon, elle est très présente, elle existe dans beaucoup d'interviews, il a beaucoup parlé, s'est beaucoup exprimé, et en même temps, toujours un peu dans une situation de pause, de provocation, de jeu avec son intervieweur, et notamment David Sylvester et ses grandes figures de la peinture. Et il est difficile de connaître Bacon à travers sa voix. En tout cas, de le connaître vraiment. Je pense qu'on ne traverse dans la voix de Bacon que l'image sociale du peintre, l'image extérieure qu'il a voulu se donner, peut-être la mythologie personnelle qui s'est construite. Et moi, c'est pas ce Bacon-là que j'avais envie de raconter. Et en allant, à chaque fois que j'allais à Dublin, j'allais à la Hugh Lane Gallery, qui est l'endroit dans lequel on a transporté l'intégralité de ce qu'on appelle le studio de Bacon, c'est-à-dire son atelier de Londres. Il a été intégralement reconstitué avec chaque objet à sa place, etc., et donné à la Hugh Lane Gallery de Dublin. Et chaque fois que je vais à Dublin, je vais à la Hugh Lane Gallery. Il y a aussi d'ailleurs les portraits de Jack Yates, le frère de William Butler Yeats, qui y sont. Puis il y a ce magnifique atelier de Bacon, qui est une sorte de lieu de chaos absolu, un capharnaüm créatif un peu cauchemardesque, avec des taches de peinture, de la poussière, du sable, des figures déformées, des copies des grands papes, des Velázquez, de tout ce que la peinture aussi de la Renaissance a pu porter, qui sont tachées, déchirées, des pots de peinture fracassés. Et dans cette atmosphère, où on voit aussi des journaux exposant des faits divers, des meurtres, des charniers, des manuels médicaux avec des pathologies de la bouche, du corps. Donc ce lieu-là, qui est une sorte d'enfer des images, se retrouve vitré. On peut comme ça regarder chaque côté, en observer tous les détails et voir tout ce qui a pu traverser. C'est comme une sorte d'inconscient de Bacon à ciel ouvert. Et puis juste à côté, il y a des interviews diffusées de Bacon. Et je me rappelle d'avoir entendu un ami de Bacon racontant, bien après sa mort, mais nous, quand on allait chez Francis à Londres, il y avait toujours Nanny. Et il raconte Nanny. Nanny, c'est évidemment la nourrice en anglais. Et Nanny, ce personnage qui est décrit comme une petite mamie à chignon extrêmement classique hein, dans la tradition de ce qu'on appelle la upper class anglaise, mais qui en même temps avait un côté extrêmement voyou et voire un peu punk, puisqu'elle proposait ce qu'il voulait fumer, ce qu'il souhaitait boire aux amants et aux copains de passage. Donc c'est ce personnage très étonnant de Nanny, et cet ami de Bacon racontait, mais Nanny, elle dirigeait sa vie. Nanny, c'était... Donc moi, je me suis représentée une sorte de nourrice qui était en même temps le parrain de la mafia, une sorte de personnage extrêmement charismatique, comme ça, magnétique, qui avait dirigé la vie de Bacon. Puis, en recherchant un peu dans les livres, dans les biographies, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de livres d'amis, de témoignages. Il n'y a pas tant de biographies classiques que ça sur Bacon. Alors, le travail reste encore largement à faire, je pense. Mais dans ce que j'ai pu traverser, il y a toujours quelques lignes sur donc, la nanny, Jessie Lightfoot, qui vient de Cornouailles, dont on sait qu'elle était effectivement... à la fois monarchiste, dans la bonne tradition anglaise, qu'elle en avait élevé un paquet, des gamins de ce milieu-là anglais, mais qu'en même temps, elle avait aimé Bacon comme une mère, qu'elle avait vécu avec lui jusqu'à sa mort, et qu'elle avait d'une certaine manière dirigé sa vie, mais d'une manière extrêmement bienveillante, qu'elle était d'une certaine manière, sont volées de lumière hein, dans cette peinture extrêmement tourmentée, et que c'est à la mort de Dany que pour lui beaucoup de choses se sont assombries et effondrées. Voilà.
Ouais, c'est vrai. Et alors, c'est un votre roman décrit deux mondes. D'ailleurs, vous aimez bien l'altérité, Maëlys Bessery. Il décrit deux mondes, c'est-à-dire il y a le milieu donc de Bacon, le milieu d'origine qui est assez aisé, etc. Et puis il y a les gens de maison, ce qu'on appelait autrefois les gens de maison. Et c'est vrai que ça paraît comme deux vies parallèles. On voit bien ça aussi par-delà l'histoire de Nanny et de Bacon. On voit aussi tout ce monde de la maison, toutes ces coulisses. On sent que ça vous a plu de même quand vous montrez les coulisses de l'atelier. Ce côté coulisses, voix off.
Oui, ça me plaisait de rentrer dans une sorte d'intimité, mais qui soit pas une intimité voyeuriste, mais qui soit plutôt dans le tréfonds de Bacon. S'il est aussi sombre que ce qu'il nous montre, et que ce que nous dit sa peinture, et que ce qu'il dit lui-même, alors il aurait même pas pu être en vie. Et en réalité, il y a une face lumineuse de Bacon qui existe, que l'on voit d'ailleurs dans les pastels, dans les roses, qu'on aperçoit dans ses tableaux, même au milieu de scènes de massacre, dans les teintures comme ça. Il y a cet arrondi, parfois des formes. Et moi, je pense que cette relation d'amour de Nanny, qui justement est arrivée quand il était tout bébé, quand il avait un an, et qui s'est occupée de lui, qui a été une forme de stabilité dans sa vie affective, l'a sauvée. Et donc cette partie-là de pulsion de vie, j'avais envie de la montrer comme un pendant à tout ce qu'on connaît de lui et comme une autre clé peut-être pour comprendre à la fois l'homme et sa peinture. Et en même temps, ça me plaisait que ce soit Nanny qui parle parce que Nanny est la spécialiste de son enfant Bacon. Elle le connaît depuis tout petit, elle sait tout de cet enfant, elle a compris son développement, elle a vu petit à petit son regard se faire, elle l'a vu avec ses premiers crayons, donc elle connaît toute cette histoire. Et d'une certaine manière, elle nous explique pourquoi il a peint ce qu'il a peint et pourquoi il ne pouvait pas peindre autre chose en réalité, étant donné son histoire, si ce n'est qu'il l'a fait d'une manière qui est due à ses dons particuliers. Voilà, donc il y a cette histoire-là. Et je voulais que Bacon apparaisse non pas dans la voix qu'on lui connaît, mais uniquement dans une sorte de petite voix secrète qui est celle du créateur quand il peint. Et donc une voix très exigeante et même à certains égards très violente, la manière dont il se parle à lui-même, dont il exige de lui-même de peindre ce qu'il a dans la tête. Et donc c'est une voix à la fois comme un jaillissement assez technique sur ce qu'il veut, mais qui est aussi celle justement qui attend de lui qui soit à la hauteur justement en tant que peintre. Donc j'aimais bien que ces deux voix se croisent et qu'on comprenne petit à petit que ce qu'il se disait et que ce qu'il peignait évidemment avait un écho direct avec ce que nous raconte Nanny de sa vie et de son enfance.
Je dois dire que ce n'est pas ces deux rythmes totalement différents. Nanny, elle est dans la vie, elle est dans l'invective, elle le rappelle à l'ordre. Et le monologue de Bacon est dans la recherche constante, presque dans l'autodestruction. Est-ce que l'expérience de la radio a eu une influence sur votre écriture?
Je crois que la radio a une influence sur tout ce que je fais, toutes mes écritures en fait, hein, tout ce que j'ai pu faire, c'est des voix qui jaillissent souvent. Donc c'est vrai que le parallèle est clair. Nanny, vous parliez des gens de maison, c'est vrai que j'ai une sorte de fascination pour ce langage déjà des personnes d'un certain âge. C'est vrai que c'est peut-être ce qui me plaît le plus en littérature, les personnages de vieux. Mais aussi cette dame qui, en réalité, est de ce milieu populaire, mais connaît très bien le milieu aisé dans lequel elle est justement, et elle circule depuis qu'elle a une quinzaine d'années. Elle fait partie de ces bonnes qu'on a placées à 15 ans, comme c'était la situation aussi en France, des jeunes filles de la campagne. Donc elle est à cheval, elle est entre ces deux mondes, c'est-à-dire qu'elle écoute cette langue des milieux, en l'occurrence bourgeois, pas aristocratique pour Bacon, mais très bourgeois, et elle pratique le langage des gens de maison. Donc elle est à travers deux mondes. Elle est anglaise de Cornouailles, elle n'est pas irlandaise. Donc, elle fait aussi une différence entre ces milieux-là. Ces différents types d'anglais qui se parlent dans ces milieux-là. L'accent prend aussi une importance énorme en anglais. Donc, tout ça, il fallait imaginer la transposition en français à travers notamment les images populaires, les expressions, ce qui lui vient aussi spontanément de cette langue à la fois populaire mais légèrement surannée, et parce que surannée, du coup, finalement, assez élaborée et d'une certaine manière très belle. Donc moi j'aimais que Nani soit pas un personnage cultivé, puisqu'elle a pas eu la chance d'aller à l'école, mais elle a sa petite philosophie sur les choses, et puis elle a beaucoup vécu. Très jeune, elle a brûlé beaucoup d'étapes, la vie a été dure avec elle. Donc, d'une certaine manière, elle connaît la vie, les milieux sociaux, elle connaît tout de la maison. Elle sait très bien les secrets de tout le monde. Et donc, ça lui donne une sorte d'intelligence aussi sur ce qui se passe, mais qui n'est pas la même que celle des esthètes qui jugent la peinture de Bacon. Et donc, j'aimais bien ça, qu'elle raconte la psychologie des personnages dans sa forme, qui est sa forme intime, comme si elle vous racontait depuis sa cuisine. Mais en même temps, cette langue, pour moi, est très littéraire. D'une certaine manière, comme les figures de Bonne peuvent apparaître au théâtre ou dans la littérature classique, ce sont des vrais personnages littéraires. Et le langage de Bacon, complètement pulsionnel, il correspond aussi peut-être à une langue secrète qui est celle qu'on n'entend pas, qui est même pas le flux de conscience, qui est l'espèce de voix subie au moment où il peint. Et ça, j'aimais que ce soit un mélange de la violence qu'il a pu subir par son père, le capitaine, et un mélange d'exigences qu'il ait retourné envers lui-même et qui soit devenu la tyrannie de ne jamais être à la hauteur de ce qu'il veut peindre.
Alors, il y a aussi, on pense à Cervantes, Don Quichotte avec Pancho, il y a comme ça une sorte de duo très vivifiant, j'allais dire. Alors, l'enfance de Bacon, c'est un enfant fragile qui est asthmatique, et je pense que ça a beaucoup d'importance, y compris dans sa façon de parler, de vous le faites parler à l'intérieur de lui-même, et de peindre aussi. Vous dites, il faut le voir allaiter et ressusciter à chaque souffle, à chaque dose de morphine qui lui congestionne la figure. Il faut voir le petit vivre sans air. Et ça, c'est, je crois, Nani qui parle de lui. Mais il est toujours à la recherche d'un souffle, il est toujours à la recherche d'une sorte d'oxygène, puisqu'il est coincé entre plusieurs violences, celle de son père, celle de la violence politique, celle du milieu d'où il vient, et il étouffe, ce Bacon.
Oui, d'ailleurs, c'est l'asthme a donné de grands créateurs. Hein. C'est vrai que on parle de l'asthme de Proust, l'asthme de Bacon, il ressort dans sa peinture puisqu'il y a ses papes notamment, mais aussi d'autres figures, hein, les têtes notamment des débuts, qui sont des grands coups de brosse à la verticale, hein, justement de visages qui se projettent la tête en l'air pour essayer de ne pas suffoquer. Donc il y a ce coup de brosse de l'air qui justement essaie de sortir, de l'étouffer et qui justement c'est belles qui meurt dans un souffle. Il y a cette idée-là d'un personnage enfermé, Bacon, dans un lieu assez paradisiaque de cette lande irlandaise très belle. Mais lui, c'est un enfer pour asthmatique. Il y a des chevaux partout. Son père élève des chevaux de course. Il y a les chevaux, il y a les chiens, qui sont d'ailleurs les plus aimés de la maison. Hein. Son père n'a d'affection que pour ses bêtes, même si ils ont aussi leur lot de fouet. Et lui, il profite visuellement de cet univers, mais il y suffoque. Donc c'est vrai que c'est... alors évidemment, il y aurait de quoi analyser d'un point de vue psychanalytique ce qui se passe dans cette maison. Hein. Cette maison, c'est aussi comme une sorte de lieu de chasse à ciel... Fermé. Le coup, la maison est un terrain dans lequel il n'est jamais en sécurité, puisque l'ennemi, c'est le père. Et le père est toujours à chercher une faute à l'enfant et à attendre un moyen de le châtier, de le prendre en faute et de l'humilier. Donc il y a cette violence paternelle qui est omniprésente, qui fait qu'il a très peu de répit, sauf quand le père est absent, et qu'il est toujours dans les jupons de Nani. C'est un enfant qui est peu scolarisé en raison de son asthme, donc qui va d'une certaine manière être un autodidacte, puisque le curé va lui apprendre à lire, il va dévorer la bibliothèque familiale, il va beaucoup dessiner, il va s'intéresser à la couture et la broderie à travers la figure de sa grand-mère, mais en cachette, parce que déjà que son père le traite de fille, alors la broderie, ça serait toute une affaire. Mais il va y avoir cette imprégnation, justement, d'un milieu finalement assez féminin dans lequel il est gardé en raison de son état de santé. Alors plus tard, il y aura le collège pour garçons, il y aura les pensionnats. On dirait qu'il fréquentera plus les dortoirs que les salles de classe, mais... Il y a quand même cette idée de la maison, mais dans le milieu d'une maison toxique. Et d'ailleurs, il va reproduire d'une certaine manière cette maison toxique à travers ses pigments de peinture qu'il étouffe et qu'il va passer sa vie à fabriquer lui-même au milieu de ses éthers. Et il va reproduire d'une certaine manière dans son atelier une atmosphère toxique.
On pourrait dire aussi qu'il peint en apnée. Il est...
Oui, en apnée, puis dans une espèce de mouvement assez violent. Hein. On sait qu'il s'essayait à des gestes accidentels pour essayer de créer quelque chose dans sa peinture, qu'il a aussi ruiné beaucoup de toiles par ces expériences-là, qu'il en a détruit énormément, qu'il en a poignardé, qu'il en a brûlé. Et Nani est témoin de tout ce va-et-vient autour de la peinture. Et d'une certaine manière, même si évidemment elle connaît pas la peinture, elle en comprend quelque chose de ce mouvement créateur et de ses élans autodestructeurs. Donc il y a quelque chose d'assez net dans sa compréhension parce qu'elle a toute l'histoire, elle a tout l'historique. Et donc moi j'aimais aussi que la peinture soit racontée par des profanes, que la peinture soit pour tout le monde d'une certaine manière et qu'on n'ait pas besoin ni de connaître Francis Bacon, ni de connaître la peinture pour pouvoir comprendre pourquoi finalement un homme se met aussi à sublimer.
Et à survivre, c'est l'histoire d'un survivant.
Alors c'est un survivant, oui, et en même temps il va rester toujours, je dirais, à 50-50 entre pulsion de vie et pulsion de mort toute sa vie. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement tout ne se sublime pas chez lui et ses élans autodestructeurs vont apparaître dans ses relations. Alors il va se prostituer, jeune homme. D'ailleurs il va prendre le nom de famille de Jesse Lightfoot, hein, de sa nourrice. Il va se faire appeler Francis Lightfoot et passer des petites annonces dans le Time pour tenir, comme il dit, compagnie à des messieurs qui aiment les jeunes hommes, la compagnie des jeunes hommes. Donc, et Nani va recevoir les réponses des hommes intéressés et va faire le tri. Elle va lui dire lui non, lui oui, pourquoi pas. Donc il va y avoir cette complicité un peu étrange. Et puis Bacon va avoir au début des hommes qui vont beaucoup l'aider dans sa peinture, qui vont l'aider aussi parce qu'ils vont le présenter à des galeristes, le présenter au tout Londres. Il va avoir des peintres qui vont aussi lui apprendre tout un tas d'éléments techniques qu'il aura peu appris puisque il a très peu fréquenté les écoles d'art, hein, juste quelques mois à Paris. Mais il va y avoir cette sorte de paternité comme ça qui va durer un certain temps par des hommes plus mûrs. Puis les choses vont devenir tout à fait différentes. Une grande violence apparaît dans les rapports avec les hommes, alors dès le début, mais qui va crescendo jusqu'à la rencontre de cet amant qui est Peter Lacy, qui est un rescapé de la guerre, que la guerre a rendu fou, et qui est une sorte de personnage sadique, comme ça, qui va le jeter du deuxième étage. Et la vie de Bacon va être faite de mise en danger perpétuelle.
On va faire une petite pause musicale, Maëlys Bellesry, et on revient après à votre livre. Thank you. vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Nous parlons avec Maëlys Besserie de son nouveau roman La Nourrice de Francis Bacon qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Maëlys Besserie, alors on parlait de cet asthme de Francis Bacon, j'allais dire de sa difficulté d'être. Quand il était petit, on l'appelait le gringalet, le froussard, la fille. Voilà la grande insulte qu'il lui envoie dans les dents. C'est ce que vous écrivez. Et puis, on n'a pas parlé du père. Parce qu'il y a la violence de ce père. Voilà ce qu'écrit ça. Voilà ce que dit la nanny, la nourrice. Je sais que je ne dois pas m'approcher. Francis me l'a fait promettre. Je reste là à tendre l'oreille. Pas un cri ne sort de sa bouche. Pas une plainte. Seul le hennissement du fouet qui s'abat sur lui. Comme pour le mettre à mort. Donc c'est vrai, il y a une sorte de silence. Bacon est peint pour franchir le mur du silence. On a l'impression qu'il y a la nourrice, le rejoint. Ils se rejoignent tous deux dans cette sorte d'enfermement de la violence familiale.
D'ailleurs, il est peintre, il n'est pas écrivain, Francis Bacon. C'est pas les mots, c'est les images qui viennent. Et effectivement, ce silence, cet étouffement asthmatique, je pense que ce qui est très fort, c'est que son père était beaucoup plus âgé que sa mère. Hein. Et c'est un capitaine en retraite de l'armée britannique qui a fait un mariage d'argent. Il s'est marié par intérêt à une femme beaucoup plus jeune qui avait une très belle dot. Et donc la jeune mère de Bacon est elle tout à fait de son milieu anglo-irlandais, c'est-à-dire qu'elle elle passe son temps à organiser des réceptions et les choses sont organisées comme cela se passe dans ce genre de famille, c'est-à-dire qu'il y a des nourrices pour s'occuper des enfants et de temps en temps on sort les enfants, on les présente aux invités et on les réexpédie immédiatement dans les appartements. Donc les parents et les enfants ont des vies, somme toute, totalement séparées. Comme ça se faisait dans ces milieux extrêmement bourgeois. Les Bacon vivent en Angleterre, à Londres, et puis le père, à la retraite, décide d'aller élever des chevaux de course. Et c'est moins cher d'aller en Irlande, d'acheter des grandes propriétés. C'est un lieu magnifique pour élever des chevaux, et il y a de très beaux chevaux en Irlande, et des beaux terrains de course. Donc la famille Bacon déménage en Irlande. C'est là que va naître Francis Bacon. Il a au départ deux frères, puis il y aura deux petites sœurs qui vont naître. Et au milieu de cette famille, donc Nanny, les domestiques prennent soin des enfants. Et les enfants, finalement, apparaissent le dimanche et quelques minutes entre le dîner et le thé. Donc c'est quelques minutes. Sauf qu'en dehors de ces temps-là, il y a le père qui est à la chasse et qui régulièrement a des velléités de faire une éducation virile des garçons. Et Bacon, en tant que deuxième fils, est emmené régulièrement à la chasse, il suffoque sur les chevaux et il est évidemment traumatisé comme ses frères par les tueries au fusil à un âge très jeune et en même temps fasciné par les soldats qu'il voit en costume de l'armée britannique, les costumes rouges, fasciné par ces scènes de chasse, fasciné par ces scènes de violence, fasciné par ces seuls moments qu'il a le droit de passer avec son père. Voilà, la seule chose que transmet le père, c'est cette violence et ces insultes et ces humiliations perpétuelles, puisque le fils, et Francis Bacon en l'occurrence, est estimé comme toujours trop efféminé, trop fragile. Il est le plus fragile des garçons de la fratrie, et pourtant ce sera le seul à survivre à la violence du père. Donc le père est une sorte de figure tyrannique, comme ça, effrayante, qui le fait corriger, comme il dit, ou redresser, en le faisant fouetter par les palefreniers de ses chevaux. Donc il y a des scènes, effectivement, de violence terrible à l'égard du fils. Le père ne frappe pas lui-même, mais il regarde les palefreniers fouetter son fils. Donc c'est une scène doublement sadique, hein, pour l'enfant, puisque non seulement il est fouetté, mais en plus il est regardé avec une forme de jouissance. En tout cas, c'est comme ça qu'il va l'interpréter, lui. Ses domestiques, il va un peu plus tard, à l'adolescence, avoir aussi des rapports sexuels avec eux, les mêmes palefreniers. Donc il va y avoir une sorte de mélange d'érotisation de la violence qui va se faire très jeune, et qui va mener à ce sadomasochisme qu'on connaît. Donc tout ça va être extrêmement compliqué dans sa construction personnelle, et il va être d'une certaine manière comme accro à ces scènes de violence érotisées avec le père comme spectateur. Donc ça va ressortir évidemment dans ses tableaux.
Et puis, surtout, c'est la mise en scène, Maëlys Bessery, c'est-à-dire c'est des scènes de voyeurisme, finalement. Donc c'est un tableau dans le tableau dans le tableau, et c'est ça qui le fascine aussi, comme le mouvement esquissé sur ces toiles. Ce qui ressort aussi de votre livre, Maëlys Bessery, c'est la soif de connaissance, le devenir de Bacon. Vous écrivez, c'est devenu une manie chez lui depuis qu'il lit des revues sur la peinture, les tableaux. Il m'envoie parfois des pages qu'il déchire pour me les montrer. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller les voir le de plus près. Que voulez-vous ? Avec lui, c'est comme ça. Quand il a une idée, rien à faire. Il la suit jusqu'à l'assouvir et quelles que soient les conséquences. Donc moi, j'ai bien aimé justement ce devenir qu'on n'imagine pas, puisqu'on voit le peintre arriver dans toute sa... Il a eu une soif de connaissance. C'est quelqu'un qui se bat pour acquérir cette culture du regard.
Oui, mais en même temps, ça reste très pulsionnel, comme toujours. C'est-à-dire qu'il a des sortes de pulsions, de, je dirais, plus que d'apprentissage, c'est émotionnel, en fait. Hein. Il va tomber fou amoureux des tableaux de Poussin, du Massacre des Innocents. Il va tomber fou amoureux de grands peintres, mais aussi de littérature. Hein. Il aime passionnément Shakespeare, il aime passionnément T.S. Eliot, il aime passionnément la tragédie grecque, qu'il va intégrer dans sa peinture aussi. Évidemment, il va se passionner aussi pour Picasso. C'est la pleine période, justement. Hein. Ça va lui valoir d'attendre un petit peu avant d'être lui-même reconnu en tant qu'avant-gardiste d'une autre forme. Donc, il va être effectivement dans une pulsion de tout voir et de tout ressentir, peut-être plus que de tout savoir. Moi, c'est comme ça que je le vois, Bacon, dans une sorte de soif. Lui aussi est une sorte d'ogre et de vampire qui avale tout, qui se jette sur la connaissance, qui devient extrêmement connaisseur, mais qui garde ce volet pulsionnel. Quand il dit « moi je fais de la peinture pour les nerfs », c'est ça qui se passe. Il veut rester dans ce jaillissement, dans ce mouvement, du début, qui nous dit autre chose qu'une pensée élaborée, etc. Non, lui, il veut être dans ce jaillissement-là de la peinture. Et c'est d'ailleurs extrêmement fort dans ses toiles, hein, cette violence. Et ce qui jaillit immédiatement à l'image, c'est aussi ce qui vient heurter le spectateur.
Oui, il aime heurter, il a le sens de la déco. C'était un homme d'avant-garde, on pourrait dire. Et ses miroirs ovales, sans parler des tabourets, des tables basses, tout en verre et métal. Francis s'est découvert une passion pour les tubes métalliques. Il en fait sortir de partout, même des murs, vous voyez, des barres fines comme des piquants qui dépassent des parois et forment des jolies portes-serviettes. Donc il a... Et c'est un homme, j'allais dire, spectacle. Bacon. Son entrée est comme un spectacle. La salle se gonfle d'émotions. Les regards se figent sur lui. Mais alors, d'une de ces façons, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut voir comment les gens l'écoutent, se mettent à imiter ses manières sans même s'en apercevoir. Ils se collent à lui comme des moustiques sur la lampe tempête. Je ne sais pas à quoi ça tient, cette attraction terrible. C'est comme si sa présence annulait celle des autres. Ça, c'est Nani qui parle, mais c'est vrai que c'est un homme, c'est un spectacle en lui-même, un spectacle vivant, Bacon.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'il a été décorateur. Il y a eu ce grand voyage à Berlin quand il est mis à la porte. Il est mis à la porte par son père quand il a 16-17 ans parce que son père le trouve vêtu des sous-vêtements de sa mère. Donc voilà, donc c'est à la fois l'homosexualité qui est punie, mais plus que l'homosexualité, une forme de perversité. En même temps, comme le dira Nani, elle dit son père le tord pour mieux dire qu'il soit tordu. Et voilà, il y a quelque chose de la volonté paternelle de le tordre. Puis de dire qu'ensuite c'est un être abominable et pervers, voilà, selon son jugement à lui, quoi. Donc, et qui n'est pas du tout le même que celui de Nani, qui pourtant est aussi âgé que le capitaine, mais qui justement a beaucoup plus de recul sur son histoire. Donc, il va être envoyé à Berlin, et à Berlin, il va tout découvrir justement du design, de la décoration. Donc ça va être un des rapports aussi à l'art qui va évoluer, puisque chez lui, il a découvert le dessin, une forme de couture, de rapport au tissu de sa grand-mère, etc. Là, il va découvrir les meubles, le mobilier, etc. Et donc lui-même se faire décorateur pendant un temps, puis évidemment peintre, c'est l'ambition, mais décorateur, ça va lui permettre de vivre pendant un certain temps. Alors je m'amuse des piquants parce que tout dans son œuvre est sadomasochiste, tout est partout. Et c'est vrai que quand elle dit que c'est une sorte de mise en scène, alors on retrouve l'aspect fétichiste du personnage, mais au-delà de ça, il y a un magnétisme propre à Bacon que l'on voit de manière extrêmement claire quand on suit ses interviews. il est, dans sa parole, dans son visage, dans sa manière d'être, un personnage absolument magnétique, alors même qu'il n'est pas particulièrement beau, qu'il n'a pas une voix extraordinaire, mais il y a quelque chose dans sa gestuelle, dans son énergie qui le rend tout à fait unique. Et elle raconte ce pouvoir qu'il a sur les autres, hein, de séduction, et elle raconte, voilà, évidemment avec l'humour qui est celui de Nanny, qu'il pourrait séduire le pape ou le roi, puisque on est encore sous un roi au début de la carrière de Bacon. Mais en tout cas, il y a cette idée que rien ne lui résiste et personne. Et d'ailleurs, la spécialité amoureuse de Bacon, c'est de convertir des hommes mariés. Et donc, pendant tout un temps, il ne s'intéresse pas aux homosexuels, il s'intéresse à des hommes qui sont mariés, qui ont une autre vie, et qu'il va lui-même séduire et s'amuser, entre guillemets, à détourner. Donc il y a ce jeu avec les autres, ce jeu dont il est parfois la victime aussi, notamment à travers des figures comme celle de Peter Lacy, hein, qui vont justement aller jusqu'à une forme d'humiliation qui va mener jusqu'à une destruction dangereuse. Il va dire de ses petits amis qu'ils lui auront casser toutes les dents au final, hein, donc il y a quand même une violence terrible. Mais lui aussi est un personnage violent, en tout cas psychologiquement, ça c'est certain.
Et puis il a un côté minotaure. Ce qui vous a fasciné peut-être, Maëlys Besserys, c'est l'univers, son univers labyrinthique, avec tous ces objets qui sont comme des pièges, parce que même Nanny est piégée finalement par cet univers.
Oui, mais moi, Nanny me fascine encore plus, parce que Nanny, elle est justement, on la lui fait pas à Nanny, on la lui fait pas, et elle se laisse pas impressionner, ni par Bacon, ni par tout ce petit monde, ni par les surréalistes du début, ni par tout ce milieu londonien. Elle y voit clair là-dedans, justement.
Et justement, parce qu'elle perd la vue, donc c'est un peu le paradoxe du roman, c'est-à-dire que c'est une femme qui perd la vue, qui a le sens du toucher, et je dirais presque, c'est le corps de Nanny qui est aussi important, c'est une femme mémoire pour moi, c'est vraiment la mémoire, hein, vraiment. Les mains de mes parents avaient deux fois leur âge, crevassées, racornies, elles étaient comme deux inconnues à côté de leur doux visage, deux vieilles précoces annonçant que la suite ne serait pas bien longue. C'est pourtant là tout ce qu'ils détenaient, des mains obéissantes, les meilleures esclaves qui soient, et un dos toujours prêt, etc. Donc il y a ce corps qui sert, ce corps qui est là, qui souffre, mais qui tient debout. Et on voit elle-même son combat. Il y a le combat intérieur de cette femme pour se tenir, pour observer, pour être là.
Oui, l'extrait que vous venez de lire, c'est Nanny qui parle de ses propres parents. Ouais. C'est une femme de la campagne. Ouais. Donc, issue de cette campagne, elle connaît la valeur des bras. Puisque sa force, c'est son travail. C'est son travail. Donc, le corps, quand elle arrive, elle met son corps à disposition des enfants Bacon. Elle les porte, elle en prend soin. Elle parle que de ça, d'ailleurs. Elle dit, ce petit, je le porte, il met sa tête sur mon épaule. Voilà. Donc, c'est son corps qui est mis à contribution. Alors, elle n'est pas la nourrice qui allaite, puisqu'elle est restée fille, comme elle le dit. Mais elle est la nourrice qui donne justement les soins. Donc, ça, c'est très important. C'est son corps qui la fait manger et qui tient tout le monde debout d'une certaine manière. Et elle est la structure de Bacon pendant très longtemps, je pense. Hein, elle est justement son lien avec la réalité. Alors elle n'est pas du tout la Céleste Albarré de Proust. Elle n'est pas Céleste Albarré est devenue proustienne d'une certaine manière et admiratrice de son Proust. Nanny, c'est la chef à la maison. Elle le fait redescendre, Francis, quand il va trop loin dans ses excès. Elle n'a pas peur de pousser une soufflante et de justement le remettre un peu droit dans ses bottes, parce que elle sait que quand il va trop loin, il se met en danger. Voilà. Donc elle veille, elle est la gardienne justement de sa santé, de son intégrité physique, et aussi elle est une sorte de barrage aux effondrements massifs qu'il peut connaître. Hein, elle le dit, il peut rouler dans le caniveau. C'est un personnage d'excès, d'abus. Qui a manqué de devenir totalement alcoolique, de tomber dans tout un tas de dépendances. D'une certaine manière, elle a gardé une sorte de cap, tout en tolérant beaucoup de choses de lui, hein, notamment ses penchants, sa vie amoureuse. Mais elle est le socle et le roc. Donc il y a une sorte de dureté de Nanny qui fait qu'il a, à mon avis, qu'il l'a très bien supporté aussi. Il supportait l'autorité de Nanny parce qu'elle est un personnage d'une sorte d'autorité aimante comme ça. Et là, c'est le côté, c'est la pulsion de Bacon qui a parlé, je pense, hein, d'accepter cette aide qu'elle lui offrait, cette assistance. Mais aussi, je pense qu'ils se sont bien trouvés dans le côté un peu canaille, parce que c'est un personnage très amusant. Et je pense que ça n'aurait pas pu fonctionner sans cette espèce d'espièglerie entre deux. Hein. Elle participe à ces jeux d'argent, ils fabriquent ensemble une sorte de roulotte d'argent, etc. Elle pique sur les marchés. Elle a un côté facétieux, cette nanny.
Oui, et puis c'est sa colonne vertébrale, il y a une complicité, et puis il y a un écho, finalement. Voilà ce qu'écrit, voilà ce que dit Bacon, ce que vous lui faites dire, Maëlys Bessery. Tu penses aux absents du décor, aux paysans courbant l'échine dans les blés, au dos déformé par l'arrondi répété de l'arc, ramassant des fruits de la terre trop basse. Tu imagines leurs mains nouées comme des branches sèches prêtes à casser. L'artiste qui chemine ne les oublie pas. Donc il y a des échos entre les deux voix. Est-ce que c'est j'imagine que c'est volontaire, ou c'est après, quand vous écrivez, que vous découvrez, est-ce qu'il y a eu, comment vous avez écrit votre roman Maëlys Bessery? Vous avez écrit d'un côté le texte concernant Bacon, ou vous avez justement suivi le dialogue, l'orchestration de l'ensemble?
Oui, j'ai écrit dans l'ordre. J'ai écrit au fur et à mesure les deux voix en même temps. Et oui, il y a des échos parce qu'elle est sa mère à Bacon. Il faut comprendre que symboliquement, et d'un point de vue réel pour lui, hein, sa mère, c'est Nanny, c'est la vraie nourrice au sens propre du terme. Et donc, il a intégré toute une part aussi de son histoire à elle, de ses souffrances, de cette histoire rurale qu'elle a connue. Lui aussi a vu les domestiques travailler de leurs mains. Il y a été sensible. Un peintre travaille aussi avec son corps, avec ses mains. Donc il sait ce que c'est que la matière, il sait ce que c'est que la fatigue, que la force physique. Donc il est intéressé par ça, hein, de même qu'il a suivi les bouchers, les garçons d'abattoir. Donc il est intéressé par toutes ces professions aussi manuelles. Il n'y a pas de jugement là-dedans, de même que chez lui, il n'y a pas de notion même de hiérarchie entre le monde animal et le monde humain. C'est peut-être le paradoxe, parce qu'il y a beaucoup de chair et de viande chez Bacon, mais quand il disait avec un certain humour que quand il voyait des quartiers de viande chez le boucher, il était toujours surpris de ne pas se retrouver parmi eux, il y a une sorte d'indifférenciation entre tous les êtres. Et donc ça, c'est finalement assez touchant, parce que cette culture rurale qu'a pu transmettre Nanny, cette culture aussi de la bonne chair, hein, elle est cuisinière, elle cuisine pour lui, etc. Lui est un bon vivant, hein, quelqu'un qui apprécie énormément le vin, la cuisine. Mais dans son flair, dans son nez, dans tout ça, il y a, dans son goût, il y a aussi quelque chose de l'ogre et du peintre et du vampire. Et c'est avec tout ça qu'il va peindre, avec ses sens comme complètement exaltés et décuplés, que l'on voit à travers les narines et les bouches hurlantes de ces personnages aussi.
Et ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est le passé, le présent et l'avenir de l'œuvre. Moins l'avenir de l'œuvre, parce que la postérité, finalement, la question ne se pose pas. Vous dites, voilà ce que dit Nanny, j'ai honte d'en parler, mais il m'arrive de faire les poubelles pour vérifier qu'il ne jette pas d'étoiles. J'en ai repêché quelques-unes comme ça, je les mets de côté, les cache dans un coin, au cas où, un jour, il aurait des regrets. Malheureusement, la plupart sont déchiquetés, fendus et récupérables. Et quand il a décidé, vous savez. Donc c'est... Voilà, c'est un sorte de jaillissement, de gisement permanent, c'est work in progress, quoi. C'est ça qui est bien aussi dans votre roman, Maëlys Bessery. On est dans l'action de la peinture.
Oui, puis c'est tout à fait, il y a comme une sorte de chemin parallèle, il y a une grande différence entre la reconnaissance progressive de l'œuvre, l'arrivée du succès, l'arrivée de l'argent, l'arrivée, bon, qui est somme toute relativement tardive chez lui, et l'exploration intérieure de la création, parce que ça commence tout de suite, ça commence dès qu'il est petit garçon, sous des formes d'abord de voyeur, puis petit à petit les mains se mettent à travailler, puis sous des formes différentes, et puis l'œuvre se construit. Donc c'est des chemins complètement parallèles, hein. Donc ce que nous donne à voir Bacon quand il répond aux interviews n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vie de Bacon et dans son œuvre. Et d'une certaine manière, on n'a pas accès jamais à ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un créateur. Et justement, le processus, on ne le voit pas. Nanny, elle voit les choses arriver, elle les sent arriver, et puis elle voit la métamorphose chez lui. Et donc, dans ces observations-là, petit à petit, on comprend quelque chose, une toute petite parcelle de sa manière de travailler, et aussi ce qui est complètement lié aux circonstances, c'est-à-dire que la poussière arrive dans les tableaux parce qu'il y a de la poussière dans l'atelier, parce que il y a la guerre, on retourne les toiles et on peint de l'autre côté parce qu'on n'a pas assez d'argent et on se rend compte que ça accroche mieux et donc on continue. Il y a aussi de l'accidentel, des choses qui sont liées à des circonstances bien particulières dont il sait se saisir. Et l'art est fait de ces mélanges-là, à la fois d'imitation, de vol. Bacon disait qu'il faut voler dans les toiles des autres, lui c'est largement servi, mais les autres se le servent aussi chez lui maintenant, puisqu'il a aussi énormément innové dans ses visages déformés, qu'on reconnaît pourtant parfaitement, dans ses corps tordu dont on a l'impression qu'il bouge au moment où le cinéma fait ses débuts. Donc tout ça va rentrer avec une sorte de grande communication entre les époques. Hein. C'est vrai que chez Bacon, on retrouve à la fois la peinture la plus classique, religieuse, voilà toutes ces crucifixions, et en même temps les créatures les plus étranges nées de cette violence de la guerre, hein, avec ces bêtes dentées, bouche ouverte, poilues, extrêmement inquiétantes.
On va faire une petite pause musicale, Maïlys Bessery, et nous reprenons notre conversation.
I learned to dance because you filled me with wine. Each time we meet, we seem to have a nice time. I tried to move like a Vitruvian man, except they're perfect and they move like nobody can. This is a good thing if you can keep things strong. I make my mistakes and this is why I belong. I learned to move like those Vitruvian men, but the imperfect kind that stumble and then lean on a friend. When I come back in from the cold, when I come back in from the cold, when I have been bought and I have been sold, when I come back in from the cold, when I come back in from the cold, when I have been lost. Should be home. I took a walk today and I spoke with a man. He asked me to meditate and see a higher plan, but I got caught up and dragged along by the park. I think I long for something close to heal this hole in my heart. I know it's late, but I'm not tired. So please put some more wood on the fire. I refuse regret for when I'm old. When I come back in from the cold, when I come back in from the cold, when I have been bought and I have been sold, when I come back in from the cold, come back in from the cold, when I have been lost, when I should be.
He poured some honey down my throat and he said, go and be free. This is a good thing if you can keep the thing strong. I make my mistakes and this is where I belong. I learned to move like those Vitruvian men, with the imperfect kind that stumble and then lean on a friend.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie en présence de Maïlys Bessery pour La Nourrice de Francis Bacon. C'est un roman, ça vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors nous parlons Maïlys Bessery, et il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot de métamorphose, puisque ce mot-là est présent dans tous les tableaux de Bacon. Métamorphose du mouvement, suspension du geste, rupture d'une couleur. C'est l'homme de toutes les métamorphoses, Bacon.
Mais c'est le travail de l'artiste, la métamorphose de l'écrivain, du musicien. C'est sa manière à lui de fabriquer. Le reste, ce sont juste des matériaux de départ, ou une idée, un projet. Ça n'a jamais fait une œuvre, en fait. Pour faire une œuvre, il faut bien qu'il y ait la métamorphose. Et c'est cette métamorphose, cette transformation-là. Et toutes ces variations, hein. Il y a une cinquantaine de papes. Le pape innocent, il apparaît justement autant de fois que nécessaire pour s'approcher de ce que veut faire Bacon, superposant sa création à celle de Velázquez, trouvant à chaque fois quelque chose d'autre. Et on assiste à cette baconisation, hein, de la peinture du pape au fur et à mesure. Et au fond, c'est ce chemin-là qui est celui de l'artiste. Et toute forme de variation, c'est une sorte de déclinaison comme ça, de la recherche, c'est elle qui fait œuvre d'une certaine manière, surtout dans la peinture. Alors c'est vrai que Bacon, il a une manière d'absorber comme ça la peinture des autres, le monde aussi qu'il observe, et au bout d'un moment, on voit arriver ces toiles dans lesquelles il a trouvé. Alors il a trouvé souvent quelque chose qui est d'ailleurs très inquiétant, qui est presque de l'ordre de la prémonition, puisqu'il va nous faire ses portraits, notamment avec seringues dans le bras, qui vont finalement préfigurer de personnages qui plus tard vont sombrer dans les addictions. On ne sait jamais si c'est le tableau qui a créé ou si c'est le peintre qui avait vu. En tout cas, il perce quelque chose des personnages. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est d'une grande violence pour ses contemporains d'être peint par lui. Hein. Il supporte très mal la présence en son atelier, donc généralement il travaille sur photo à partir de ce qu'il a vu lui. Il veut personne dans son atelier, il veut être seul face à sa toile parce que c'est une sorte de rituel cérémoniel un peu bizarre qui se passe entre lui et la peinture, parce que les choses l'énervent, parce que je pense qu'il y a aussi une grande insécurité et que c'est un univers dans lequel il veut pas qu'on le voit officier. Il sait pas Dali qui va peindre devant les caméras. C'est complètement autre chose qui se passe pour lui.
Alors aussi, il y a cette faculté d'interrompre le temps. En faisant irruption, tu as le sentiment de les interrompre, l'impression que tes créatures s'agitent en ton absence, que quelque chose se trame dans ton dos. Donc c'est vrai, son geste créateur interrompt les personnages et puis hop, ça reprend, comme le fait aussi un romancier. Hein.
Oui, en tout cas, pour que ça fonctionne, il faut que les sujets des tableaux deviennent vivants. On voit bien que les créatures de Bacon sont vivantes. C'est ce qui les rend si inquiétantes, d'ailleurs. Hein. Pourtant, elles ne sont pas réalistes. Hein. On est toujours dans une sorte d'anthropomorphisme, avec une animalité chez l'être humain extrêmement forte, avec des déformations de gueule cassée, avec aussi des présences d'animaux qu'on croise pas tous les jours, surtout dans le Londres justement des années qu'il fréquente, hein. Il va s'inspirer de créatures sauvages, et ce qui va l'intéresser beaucoup, c'est aussi les mouvements, le mouvement du corps, donc voilà, et puis toute forme de disons de figure atypique, donc toute forme de handicap, ce que peut faire le corps, comment est-ce qu'il peut se tordre, se distordre, voilà. Donc c'est vrai que ces créatures sont vivantes comme dans un cauchemar, je dirais. On a une atmosphère qui n'est pas très loin de la réalité, donc qui reste inquiétante. Il y a ce gorille avec son parapluie, et derrière la viande du boucher, des toiles qui, sous un autre éclairage, pourraient presque apparaître comme comiques, hein, parce que on voit bien que le gorille Marie nous sourit de toutes ses dents, mais les crocs qu'il nous montre, arrête l'amusement ici. Pourtant, il y a une puissance d'inquiéter avec assez peu de choses, puisque d'une certaine manière, il n'y a pas d'armes évidentes dans ses œuvres. En revanche, le parapluie fait figure de chauve-souris, d'animal des ténèbres. Donc c'est tout à fait une question de mise en scène, effectivement, et de mélange.
Et mélange et aussi le fait d'ingérer le vivant. D'ailleurs, quand il était petit, dites-vous, il me demandait toujours ce qu'on allait manger. C'était une obsession chez lui. Dès qu'il voyait la cuisinière faire chauffer les assiettes vides, je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Enfin, disons que c'est une vieille habitude irlandaise héritée d'on ne sait quoi. En tout cas, dès que les assiettes étaient dans le four, vous pouviez être sûr qu'il allait vous interroger sur la manière dont on allait les remplir. Jamais vu un gourmand pareil. Moi, je lui répondais toujours du jambon, de l'agneau et de la fesse de veau. Voilà, c'était devenu une phrase célèbre entre nous. Donc c'est un ogre, il mange la vie, il intègre cette idée de vivant, d'ingérer le vivant dans sa peinture.
Ah oui, parce que alors c'est vrai qu'en Irlande, on chauffe les assiettes avant de les remplir. Je pense que c'est lié au froid, à la pluie, etc., au climat hostile. Ça a quelque chose de rassurant que d'avoir des assiettes chaudes avant même de savoir si on peut les remplir. Ça doit être un héritage de la grande famine du 19e aussi. Au moins, l'assiette sera chaude, même si on sait pas trop ce qu'on va mettre dedans. Bacon, c'est ce bon vivant-là, ce dévoreur, hein, d'ailleurs dévoreur d'hommes aussi. Hein, il va avoir une sorte d'hypersexualité, justement dans les milieux gays de l'époque, cachés, la nanny a peur qu'il soit arrêté, qu'il finisse en prison comme Oscar Wilde. C'est une grande période d'inquiétude, notamment à Londres. Donc il va y avoir toute cette vie-là. Mais c'est aussi un amateur de chair, de cuisine. Et cette chair, mais au sens vraiment complètement matériel du terme, va être partout dans sa peinture. C'est le peintre de la chair. Et en particulier de la chair masculine et de ses corps d'hommes. Et il va d'ailleurs avoir dans son sillage, alors de manière beaucoup plus douce que ses peintures à lui, mais David Hockney et tout ce courant de peintres qui vont faire de leur homosexualité un des motifs de leur peinture. Chez Bacon, c'est la beauté masculine, la beauté de la chair, mais c'est des corps soumis à rude épreuve et à une lutte, puisque l'amour physique est en réalité une sorte de combat. Il y a ce tableau très célèbre de Riesling qui est justement une sorte de... Ce sont des lutteurs. En fait, ce ne sont pas des vrais lutteurs, mais justement l'accouplement des hommes est vécu comme une sorte de combat, et de combat à mort, de combat dans lequel l'un des deux risque la mort. Donc il y a une sorte de d'éros et thanatos perpétuellement enchevêtré. Et cette question de la chair, elle est toujours assimilée à la question de la sexualité et de la nourriture.
Et puis, puisque nous sommes sur Radio Libertaire, est-ce que Bacon, c'est un ingérable, était-il libertaire? Voilà ce qu'on peut lire. Ce garçon nous a été livré sans mode d'emploi. Vous savez, il va nous falloir du temps pour bien le connaître. Et c'est vrai, les gens le voient comme ça. Et ils croient savoir à qui ils ont en face d'eux. Mais non, c'est que Francis est tout sauf ordinaire. Il a plusieurs visages. Il y a le Francis qui rigole et celui qui se met en pétard. Et croyez-moi, ces deux-là n'ont rien à se dire. Voilà ce que dit Nanny, je pense. Est-ce qu'il a un côté libertaire, Bacon?
En tout cas, c'est pas du tout un militant.
Non.
Donc on peut pas dire que ce soit un militant, un anarchiste. Mais il a un mode de vie qui est relativement anarchique pour l'époque, puisqu'il y a une sorte de clivage. Hein. C'est un personnage un peu clivé. Il y a le garçon qui a absorbé les bonnes manières de son milieu et qui aime la beauté, donc qui aime aussi l'argent, le luxe, les casinos. Et de cette manière-là, il peut absolument pas être classé parmi les libertaires pour cette raison-là, pour son amour de l'argent et du capitalisme. D'une certaine manière, il est ravi de gagner beaucoup d'argent, que ses doigts se vendent cher. Il est ravi de la spéculation faite autour de lui, de son nom. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas dire ça. Mais il y a dans son mode de vie une liberté énorme, une manière d'assumer qui il est, de l'afficher au grand jour, de provoquer avec ces questions-là, qui ne sont pas que de l'ordre de l'homosexualité, mais aussi du sadomasochisme revendiqué, d'un mode de vie totalement différent et en même temps assez peu exhibitionniste, puisque, elle le dit d'ailleurs, Nanny, il disparaît. Il disparaît et on le retrouve tuméfié le lendemain. Il parle des hommes, il dit qui il est, mais cette vie-là reste malgré tout secrète. On n'est pas non plus dans l'exhibition de sa vie. On en retrouve des formes digérées, esthétisées, dans sa peinture. Donc, c'est autre chose. Ça devient comme une sorte de matériau créatif, cette liberté de vivre ses pulsions. Destructrices d'ailleurs, pour la plupart, sans jugement, hein, mais qui sont comme ça. Et donc, ça devient aussi un mode de vivre et un mode de peindre d'une certaine manière. Voilà, ça devient un matériau.
Matériau. Et puis, il y a le monde de la nuit, sa vie de notambule d'ailleurs, et quand il va rentrer, je vous fiche mon billet que dès le premier soir, il va se précipiter dans les clubs de Soho pour retrouver ses acolytes, ses copains artistes, Isabelle Rostorn et surtout Lucien Freud, qui est comme un frère pour lui et qui n'en peut plus, qui n'en a plus. Alors, c'est vrai qu'il a, il y a le monde de la nuit qui l'attire, il a deux vies, quoi. Mais il vit la nuit, Bacon. Il est un oiseau de nuit, il se nourrit, son inspiration vient de là.
Oui, d'ailleurs, on a du mal à comprendre comment il a vécu si vieux, parce qu'il vit la nuit, il fait des excès, à la fois dans ce qu'il consomme et dans ses pratiques, et puis il se lève au petit matin, parce que de toute façon, il a besoin de la lumière du matin pour peindre. Donc, il y a ce travail acharné qui, d'une certaine manière, va le sauver, parce qu'en période de travail acharné, eh bien, il sort un peu moins, et il est obligé de calmer ses excès, parce qu'il ne va jamais peindre ivre, ni quoi que ce soit, c'est-à-dire que tout ce qui a pu être dit sur ce compte n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il a besoin de cette concentration et de, c'est pas un peintre sous emprise, hein, donc il va y avoir une sorte d'alternance comme ça de ses vies ou de dosage entre les deux, et c'est cet équilibre entre la vie de peintre et cette vie de noctambule qui va justement le caractériser, qui va l'épuiser, mais qui va aussi le maintenir en vie, parce que s'il n'y avait pas la peinture, alors il n'y aurait eu que les excès, et il aurait probablement connu le même sort que d'autres, et il serait mort très jeune, etc. Mais l'œuvre a pris quand même le dessus aussi, donc il y a une sorte d'équilibre comme ça, des pulsions, entre cette vie débridée, et cette vie de peintre qui demande une discipline et une rigueur que Bacon va soutenir longtemps. Mais c'est une sorte de force de la nature, hein, malgré ce terrain asthmatique, etc. Alors ça va le protéger de la cigarette, c'est vrai. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, malgré tout, il va mourir quand même d'emphysème et de ses poumons. Mais bon, voilà, à un âge assez avancé, à plus de 80 ans. Mais c'est vrai qu'il va y avoir quand même la peinture pour le maintenir debout, levé le matin, au travail, avec un projet. Et donc... qui va devenir freiner, en tout cas se poser en contrepoint puissant au monde de la nuit.
Oui, et puis il y a un paradoxe, Bacon, c'est-à-dire c'est à la fois le sordide et la grâce, la pesanteur et la pesanteur. Vous écrivez, enfin, vous lui faites dire, tes larmes se changent en peinture, elles glissent entre tes couleurs, raconte l'histoire à ta place. Le lendemain, Georges était mort sur les toilettes, dans la position dans laquelle tu l'avais si souvent peint, la pose à laquelle tu l'avais condamné. Donc il y a une sorte de... les personnages qu'il peint sont comme pris au piège par sa peinture. C'est comme un pacte qui se passe avec la peinture.
Oui, mais c'est entre lui et lui. Est-ce que ça se passe avec les personnages? Je ne sais pas. Ouais. Cette histoire s'est passée à plusieurs reprises. Hein. Ce qu'il a peint s'est produit. Sans que l'on sache si tous les ingrédients étaient déjà présents et qu'il a pu dire à l'avance ce qui allait se passer. Ou si finalement les images avaient eu un poids déterminant dans l'avenir ou avaient servi de dernière bascule à certains des personnages de sa vie. Alors George Dyer en est l'une des victimes. Il y en aura d'autres. C'est vrai que on peut parler de son emprise à lui, hein. Peintre connu, peintre reconnu, homme célèbre, et qui a ce pouvoir de clouer sur le tableau. Hein. Et là, il y a une forme de violence. Il y a des règlements de compte sur la toile. Et en même temps, il y a forcément une sorte de consentement de l'autre, puisque il pose, hein, George Dyer va poser pour Bacon beaucoup, mais il y a une forme de condamnation des images. C'est la limite du compromis entre Bacon et sa peinture, c'est la place de l'autre. Est-ce qu'il y a vraiment une place pour les autres? Je ne sais pas. En tout cas, lui fait ce qui est le meilleur pour sa peinture, quelles qu'en soient les conséquences. George Dyer est un petit voyou des quartiers qui parle cockney avec son accent. Il a beau être très joli garçon et sortir son plus beau costume, tout le monde sait d'où il vient dès qu'il ouvre la bouche à son accent. Donc il est condamné d'une certaine manière dans un milieu qui est celui des peintres et celui du monde justement artistique du tout Londres que fréquente Bacon à cette période, hein, un peu plus tardive, dans les années, fin des années 60, début des années 70. Donc George Dyer va être probablement victime de sa volonté à lui aussi d'ascension sociale à travers Bacon. On ne sait pas, on n'est pas là pour faire le procès ni de l'un ni de l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que la place de l'autre est très incertaine chez Bacon. Et d'une certaine manière, c'est un personnage qui, pour cette raison, est difficile à aimer. Pour moi, le fait qu'il ait récupéré Nanny alors qu'elle était en train de devenir aveugle et qu'il se soit occupé d'elle jusqu'à son dernier souffle rattrape beaucoup du personnage et de ce qu'on a pu dire sur lui. Mmh. Il a été capable de cet amour-là. Peut-être le seul, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il a été capable de rendre à cette femme-là ce qu'elle lui avait donné. Et donc, c'est peut-être là la vraie place de l'autre qu'il a pu donner au moins une fois.
Ouais. Et on peut dire, je veux dire, votre dernière phrase, enfin, je crois, jusqu'à ce que ta peinture se tarisse, que les os craquent à leur tour, deviennent poussière, se collent à ton dernier tableau, à ta peinture encore humide, vivante. Est-ce que ce roman est celui de la finalité, finalement, puisque vous parlez, Maïlys Bessery, de votre fascination pour les personnages âgés, pour la fin de vie, finalement? Nanny, elle est en fin de vie et Bacon, il brûle sa vie, donc ils se rejoignent quelque part. Est-ce que c'est le roman, oui, d'une certaine, je dirais pas d'un naufrage puisqu'il n'y a pas du tout de naufrage, mais d'une certaine, une interrogation sur la destinée, des destinées qui se rencontrent.
Oui, c'est vrai. Cette relation a quand même est quand même totalement improbable, hein, entre lui, l'élitiste, homosexuel, dans une vie assez débridée, et cette petite Nanny conservatrice de Cornouailles. Il y a quelque chose d'improbable pour les deux, d'ailleurs, hein, et ce mélange a fonctionné. Moi, ce qui me passionne, c'est ce que les psys appellent cette manière d'introjecter Nanny. C'est-à-dire que Nanny est à l'intérieur de lui. Elle a semé quelque chose dans la petite enfance de puissant du côté de la vie et qui va le maintenir malgré toutes ses pulsions destructrices. C'est-à-dire qu'elle va être ce socle-là pour toujours. Et donc, même après sa mort, il peut reconvoquer Nanny quand il veut, parce qu'il connaît tout d'elle, il connaît son corps, il connaît sa voix, il connaît ses manières, il sait ce que Nanny dirait dans telle et telle circonstance, il sait ce qu'elle lui préparait à manger, il sait comment il se ferait engueuler, il sait tout d'elle. Il l'a intégrée tout entière. Et donc cette Nanny à l'intérieur de lui, elle lui permet de survivre au deuil et à sa perte. Et donc il a à peu près 40 ans quand Nanny meurt. C'est un chagrin épouvantable pour lui. D'autant plus qu'il est à Monaco, qu'il rentre in extremis, que Nanny est en train de mourir au moment où il arrive, qu'il ne saura pas s'il lui a vraiment dit au revoir ou pas. Donc il y a cette fin de Nanny qui arrive et qui le cueille, alors même qu'elle n'est pas si surprenante que ça, étant donné son âge à elle, etc. Mais c'est une sorte de trou dans sa vie. Il va errer après la mort de Nanny, d'atelier en atelier, pendant toute une période. Il va mettre un temps fou à se restabiliser dans sa vie. Mais ce qu'elle a semé, d'une certaine manière, est suffisamment puissant pour qu'il lui survive et pour qu'il puisse la faire rejaillir. Alors, il y a une peinture qui est le portrait de la nourrice du cuirassé Potemkin, dans laquelle il dit que la figure de Nanny a jailli comme malgré lui. Hein, il a dessiné et puis, d'un coup, il a reconnu sa Nanny. Et d'ailleurs, ce visage n'est pas détruit, hein, comme si Nanny, justement, échappait à la destruction qui attend tous les personnages que Bacon peint. Donc, elle est restée, cet élan vital à l'intérieur de lui, qui lui a tenu la main jusqu'à la fin. Et moi, c'est ça que je trouvais extrêmement beau, parce qu'il est un personnage qui a fait le tour de la violence, peut-être, qu'il a le plus expérimenté dans ses aspects les plus sexuels, sensuels, picturaux. Donc, la violence est partout chez Bacon. Et d'une certaine manière, à un moment donné, elle s'est comme évaporée. Il y a une sorte de, en tout cas, la fin de sa vie, je pense que la vie de ces toiles montre que il ne faut pas oublier derrière cette violence cet élan vital qui a fait que il a traversé sa vie, qu'il l'a vécu, et que je pense que il le doit pour une grande part à ce personnage de Jesse Lightfoot qui était en lui.
Et puis il y a l'enfance de l'art. Mais la phrase que vous mettez en exergue de votre roman, Maïlys Bessery, c'est que reste-t-il à la fin? Des dents et des os. Donc je ne sais pas.
Ça, c'est l'humour anglais, hein. C'est l'humour anglais aussi. Bah, je pense que Bacon, quand il parle de la viande, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a une forme de, il y a une violence terrible et une surprise de pas être traité comme un animal qu'on chasse dans un terrier. Hein. Il a vécu quand même avec l'IRA autour. Et la peur d'être la cible. Sa mère lui disait, t'approches pas des rideaux, fermez les rideaux. Donc je pense qu'il a vécu toujours traqué aussi par son père. Et que donc, ça a été une sorte de surprise que de rester en vie si longtemps.
Et puis il y a l'ossature. On sent que cette ossature vous préoccupe hein, dans votre rapport à l'écriture, Maïlys Bessery. Je voudrais, vous, ce sera ma dernière, enfin, mes dernières questions, c'est de revenir un peu à votre parcours personnel. Quelles sont un peu vos admirations en littérature? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous pour écrire?
Je ne sais pas si j'ai eu vraiment un déclic, c'est qu'à un moment donné je m'y suis mise de manière plus professionnelle, on va dire, c'est-à-dire que j'écrivais pour la radio, j'avais un rapport de lectrice très ancien, très archaïque comme beaucoup de gens, et j'avais passé beaucoup de temps notamment dans des grandes sagas familiales du 19e siècle, et j'avais beaucoup aimé à la fois la littérature française, allemande, russe, et c'est vrai que j'aimais particulièrement les grands formats dans lesquels je pouvais rester longtemps. Il y avait une histoire d'imprégnation de musique, et c'est vrai que la radio a satisfait chez moi la question de la musique, la question des voix pendant longtemps. Et d'ailleurs, j'ai gardé beaucoup en tête des mots prononcés par des gens qui m'ont touchée. Enfin, et puis de lire les livres des autres, etc. L'expérience de l'écriture, finalement, a été une sorte de prolongement de cette expérience-là. Il a peut-être fallu vivre un certain temps pour passer à l'écriture. Et c'est vrai que Beckett, c'est pourtant l'homme du silence, c'est comme un homme du silence qui est rempli de paroles à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu voilà. Donc c'était un personnage parfait parce qu'il était vraiment à la fois dans sa forme, dans l'humour qu'il peut apporter, et puis dans cette personnage frontière entre la France et l'Irlande, etc. Il était parfait pour raconter beaucoup de choses. Donc c'est Beckett qui a été un déclencheur. Mais Beckett, je l'ai rencontré en tant que lectrice et spectatrice de théâtre à 14-15 ans, et vous voyez, je me suis mise à écrire à 35, donc finalement la digestion a été lente.
À quoi ressemble votre bibliothèque?
J'ai une très très grande bibliothèque qui monte dans un escalier comme ça de livres. Il y a une bibliothèque française et une bibliothèque anglaise. Justement, alors c'est comme deux mondes qui pour moi se rejoignent sans cesse, hein, avec justement à la fois ce qui m'a ému dans ma propre langue et ce qui m'a ému en anglais. Et pour moi, c'est comme deux visages différents puisque je le vis de la même manière étant la même personne, mais une langue dans laquelle on n'a pas été éduqué, dans laquelle on n'a pas les mêmes expériences émotionnelles, et d'une certaine manière vierge. Et en tant que lectrice, ça m'a laissé un grand terrain justement d'imagination, avec même des accidents de lecture, quand j'étais plus jeune, des mots mal compris, mal interprétés, qui me faisaient imaginer encore d'autres choses qui sont pas du tout dans le livre, encore plus qu'on ne le fait avec des livres dans sa propre langue. Donc il y a une sorte de liberté que m'a donné l'anglais, et qui pour moi est très précieuse et que j'essaie de retrouver en tant qu'autrice.
Est-ce que l'écriture de ce livre vous a modifié, vous a changé ?
J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre, alors même que je pensais que la compagnie de Bacon serait peut-être difficile. Parce que c'est un univers qui est d'une grande cruauté, et donc je me disais que peut-être j'aurais du mal à rester longtemps avec Bacon. Et en réalité, il m'est arrivé la même chose qu'à lui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la présence de Nanny permettait de tout supporter. Donc cette Nanny, j'ai eu un tel plaisir à imaginer sa manière de parler, et il fallait qu'elle soit aussi puissante que nécessaire pour justement être un contrepoint à Bacon. Et pour qu'il l'ait tant aimé, il fallait qu'elle soit vraiment extraordinaire. Donc ça pour moi, ça a été une grande merveille que de travailler avec cette voix de Nanny comme ça, comme une sorte de bercement à la fois drôle et de protection face à l'œuvre aussi de Bacon.
Merci à vous, Maïlys Bessery.
Merci à vous.
Eh oui, l'émission Bibliomanie touche à sa fin, mais vous pouvez la réécouter, la podcaster, la télécharger sur le site de Radio Libertaire. Vous pouvez encore, et ça serait une excellente idée, lire les autres livres de Maëlys Besserie. Je vous recommande notamment Le Tiers-Temps, qui a obtenu en 2020 le prix Goncourt du premier roman, et où il est notamment question de Samuel Beckett. Voilà, je vous ai tout dit et je vous souhaite de très bonnes lectures avant de nouvelles escapades littéraires.
si, et si c'était notre vraie vie, celle qu'on a mutilée, tuée, fraternelle.
Radio Libertaire 89.4.
Le cri du vent qui se souffle à travers nos amplis, où ce reflux du temps, dans les couloirs des nostalgies, n'est-ce pas la nuit en transe qui peint en noir nos artifices, comme une sentence envoyée l'ambulance. Pour elle, Louise. Pour elle, Louise. Pour elle, Louise. Pour elle, embrumée dans le matin banal d'un idiot naufragé quittant ses bacchanales, n'est-ce pas les blackouts là-bas au coin de l'infirmerie qui joue les talents scouts et jongle avec nos veines meurtries, n'est-ce pas l'étrange absence du chien funèbre au box-office, comme une sentence envoyée l'ambulance. Pour elle, Louise. Pour elle, Louise. Pour elle, Louise. Pour elle, Louise.
Such a sweet millionaire, while tearing up a game of golf, I mimic a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart